Au cœur de l'humain. Parole de corps. Une cohérence d'ensemble. Nous disposons de trois outils principaux pour permettre à la personne de s'exprimer librement et de trouver des solutions à ses problématiques. Les trois principaux outils de la méthode Camilly sont donc l'entretien guidé, le massage sensitif, le décryptage analytique des rêves. L'entretien guidé, directif dans la procédure et non directif dans le contenu. Il aide à rendre le client-patient autonome, plus maître et créateur de sa vie. Cinq dynamiques sont à distinguer. Faire le point, FLP, sur le sujet à mener. Prendre du recul, PDR, vis-à-vis du point de vue initial. Ouvrir l'éventail, OLE, des possibilités, faire des choix, FDC, dans l'ensemble des possibilités envisagées, quoi faire avec, QFA, autrement dit, mettre en œuvre des changements. Les deux premières, FLP, PDR, à orientation analytique, sont plus présentes en début de thérapie, et les deux dernières, FDC, QFA, cherche plus à mettre en place les changements. Le massage sensitif, MS, est un langage corporel par l'intermédiaire duquel le patient joue un rôle actif. Il peut découvrir les réactions de son corps et les souvenirs qui y sont liés, ainsi qu'expérimenter de nouveaux fonctionnements. Il correspond au toucher employé dans la méthode Camilly. C'est une technique bien particulière, très différente des massages classiques. En fait, c'est un langage. Et comme tout langage, nous pouvons l'utiliser pour échanger des banalités, pour philosopher, faire de la poésie. Certains massés porteront leur attention sur leur enveloppe corporelle dessinée par le masseur, d'autres sur la relation avec celui-ci, d'autres sur les souvenirs ou émotions qui surgissent. Face à la question de certains spécialistes, « Mais enfin, quel corps massez-vous ?», nous pouvons répondre « Tous ». En effet, c'est le massé qui choisit de porter son attention plus à son enveloppe de peau, ou sur le plaisir et l'hédonisme du toucher, ou sur son corps relationnel, social. Et l'orientation de son choix, plus ou moins volontaire, parle de lui. Le décryptage analytique des rêves, DAR, est une technique d'interprétation des rêves dans le respect des apports de Freud, Jung et Lacan. Le thérapeute peut utiliser une grille en 15 points, regroupée en 5 triades, qui permet d'examiner les éléments du contenu manifeste, ainsi que ce qui n'apparaît pas ou que par intervalle. Les applications. Nous avons vu que la méthode Camilly consiste à travailler simultanément au cours d'une même séance sur les trois instances psychiques lors d'un premier temps verbal, physique et végétatif lors d'un temps corporel, puis sur les trois en faisant des liens lors d'un troisième temps verbal. Nombreux sont les domaines où le massage a une place de choix. Le bien-être, la communication, la connaissance de soi, la thérapie. La réussite d'une thérapie dépend à 50% de l'investissement du patient, à 25% de l'accord des personnalités entre patient et praticien et à 25% de la méthode utilisée. Dans la relation entre le praticien et son patient-client, il est essentiel de maintenir une cohérence. Une méthode analytique ne peut être employée lorsque, en même temps, nous prescrivons des médicaments. Une méthode qui cherche à faire disparaître les symptômes ne fait pas bon ménage avec une autre qui recherche les causes profondes des difficultés. Il faut choisir. Massage sensitif et méthode Camilly sont à orientation analytique. Nous n'imposons rien, ne prescrivons aucun produit, Évitons de donner des conseils ou d'orienter les personnes dans des directions qui ne seraient pas les leurs. Nous les aidons à trouver elles-mêmes leurs propres solutions. Quand le corps s'exprime, le psychisme peut-il se dissocier du corps? A-t-on un corps ou est-on un corps? Peut-être les deux, mais ce qui importe, c'est de lui permettre de parler, s'exprimer, dialoguer, se dire. Il s'avère que nous n'avons pas appris à l'école à décrypter son langage. Celui-ci est donc plus spontané et archaïque que les langages verbaux et écrits que nous sommes censés mieux maîtriser. Ces derniers sont plus élaborés, mais en même temps peuvent plus facilement cacher l'essentiel derrière la forme. Il s'agit donc de laisser la parole au corps en observant finement ses moindres réactions. Des changements de la couleur de peau, des changements de température, de rythme cardiaque et respiratoire, de tension des différentes couches de chair. Les positions et les ébauches de gestes sont aussi essentielles dans l'expression des corps. En laissant par la libre expression corporelle le corps du massé se manifester, c'est toute la vie intérieure de sa personne qui monte en surface. Le corps, évidemment, participe à notre équilibre somato-psychique. La méthode Camilli n'est pas une psychothérapie utilisant la psychanalyse, c'est une psychanalyse intégrant le corps, nous dit Claude Camilli. Une élaboration en trois instances menant à une construction qui connecte corps et psychisme. La méthode Camilli tient compte des précautions préconisées par Freud. Elle respecte la règle fondamentale de la psychanalyse, d'où dire tout ce qui vient s'entrier, retenir, tout en introduisant des perspectives et des éléments novateurs, associant le patient à sa propre évolution, ce qui la rend résolument didactique. Claude Camilli. Nous voyons donc qu'en psychothérapie, le massage sensitif ne va pas être une observation de son corps, mais un dialogue avec son corps, avec l'aide du psychothérapeute. Nous sommes loin de la notion de massage compris comme une action sur le corps. Claude Camilli. La libre expression verbale préconisée en psychanalyse possède son pendant dans la libre expression corporelle favorisée par le massage sensitif. Grâce à l'amplification des expressions permises par la transmission du rythme tension-détente et à la reformulation corporelle des gestes ébauchés par le corps du massé patient-client, celui-ci s'exprime dans une nouvelle relation, explore un nouvel espace, expérimente une autre façon d'être au monde. La libre expression corporelle, voie princière de prise de conscience et d'équilibre. Aller de mieux en mieux. La vie nous apporte joie, gaieté, légèreté, mais également son lot de douleurs corporelles, de dysfonctionnements organiques et de difficultés psychiques. Manque de tonicité et d'enthousiasme peuvent être d'origine physique ou psychique. L'important étant de pouvoir retrouver le plus vite possible notre homéostasie pour manifester au mieux nos pouvoirs créateurs, notre pulsion de vie. Pour ce faire, nous avons parfois besoin d'une aide extérieure. Bien sûr, la plupart du temps, le cours des événements apaise des difficultés. Mais pourquoi souffrir pendant de longues périodes alors qu'il est possible de cicatriser plus rapidement? Sur une plaie, nous mettons un pansement. Des onguents existent aussi pour les maux de l'âme. Selon les cas, nous pouvons nous adresser à un praticien de bien-être ou à un psycho- et somatothérapeute. Les séances débutent toujours par un temps verbal qui permet de vider son sac, de formuler une demande, d'expliciter les dysfonctionnements et souhaits, d'en rechercher les causes. Suit un temps où la parole est laissée au corps qui peut s'exprimer et retrouver tout à la fois paix et énergie. Enfin, lors du troisième temps, nous laissons à nouveau les mots donner du sens à ce qui a été vécu corporellement pour ancrer du positif. Les difficultés de la vie agissent sur notre corps et nos vécus corporels. Ils impactent notre vie psychique. Ainsi, que nous souffrions d'insomnie, de manque d'appétit, de douleurs musculaires ou de coups de blues, de passages dépressifs, de manque de confiance, de difficultés à assurer le quotidien, de tensions relationnelles, il vaut mieux ne pas attendre pour se prendre en charge, ne pas laisser des situations ou comportements toxiques s'installer. Il n'est pas question de prétendre que la somatopsychothérapie par le massage sensitif peut régler tous les problèmes physiques et psychologiques de l'existence. Mais l'expérience permet de constater que dans toutes les situations où un accord s'installe entre physique, psychique et végétatif, la personne se porte mieux. À défaut, elle trouve en elle-même les capacités de mieux gérer ou accepter ses difficultés. Ce n'est pas une affirmation théorique, c'est le résultat de milliers de constatations cliniques. C'est souvent le premier pas qui est difficile lorsque l'on cherche à changer. En se donnant la preuve que c'est possible, on trouve plus facilement l'énergie pour continuer à avancer. L'équilibre est sans cesse menacé, mais c'est en avançant que le vélo est le plus stable. Écoute bienveillante, du vide pour accueillir. Nous reviendrons sur ce thème dans le chapitre « Devenir une oreille accueillante », mais dès à présent abordons quelques principes. Pour écouter l'autre, il ne s'agit pas uniquement d'entendre avec notre sens auditif les mots prononcés, mais de comprendre, entendre ensemble ce qui est dit. Pour cela, il faut accepter de se décentrer, quitter ses croyances, habitudes et certitudes, devenir un observateur non interprétant. Nous ne nous disons pas neutre car la neutralité pourrait mettre de côté toute la charge affective et émotionnelle d'un discours. Or, celle-ci est une composante essentielle d'un message. Pas d'attitude de neutralité donc, mais de prise de recul. Il ne s'agit pas de comprendre les mots, mais ce que l'émetteur tente d'exprimer de son monde intérieur et de la façon dont il vit les événements cités. Quelqu'un vous dit « c'est un vieux bourrin ». Si vous êtes choqué, vous allez entendre « il ne peut plus rien gagner ». Si vous êtes bauché chevalin, vous comprendrez « sa viande est trop dure ». Mais si votre interlocuteur entendait dans son enfance son père nommer les personnes d'expérience de « vieux bourrin », ses paroles deviennent pour lui admiratives et respectueuses. En communication, il importe de ne pas s'arrêter aux mots, mais aux idées qu'elle cherche à véhiculer. Il faut faire silence dans sa pensée si l'on veut écouter quelqu'un de manière à l'entendre. Un espace de vide. Rien de nouveau ne peut remplir une jarre pleine. Seul un récipient vide peut accueillir un nouveau liquide. Si vous êtes empli de savoir, croyance, certitude de ce qui est bon ou mauvais, vous ne pouvez pas entendre. Entendre nécessite un espace de vide en soi-même. Écouter n'est qu'un moyen. Écouter, d'une certaine manière, n'est pas un but en soi. C'est un moyen qui, lorsqu'il est employé à l'usage d'une personne, permet à celle-ci d'être entendue. C'est là que se situe le véritable début d'une relation, le moment où le professionnel du social devient quelqu'un, un partenaire qui compte. Un espace vide, donc, mais qui peut vibrer à la fréquence de son interlocuteur. Pourtant, cette vibration ne doit pas transformer l'écoutant. L'empathie doit conserver la capacité à prendre du recul et ne pas être un amplificateur de résonance. Écouter demande un étrange mélange où il faut pouvoir se mettre suffisamment de côté soi-même, tout en étant résolument présent, être libre d'une volonté de résultat, tout en restant éveillé et en attention, en tension vers. C'est une attitude particulière, surtout pour qui veut l'utiliser professionnellement. Comment être en écoute active ? exclure ses propres idées préconçues et toute tentative d'interprétation, adopter une attitude physique de disponibilité, laisser autrui s'exprimer sans l'interrompre, le questionner, question ouverte, l'inciter à préciser le cours de sa pensée lorsqu'elle est imprécise ou trop générale, lui donner de nombreux signes visuels et verbaux d'intérêt, reformuler ses propos en ses propres termes, puis avec les nôtres, pratiquer des silences, témoigner de l'empathie et confirmer sa bonne compréhension, rester neutre et bienveillant. Savoir se mettre en creux pour entendre. Lorsque le corps souffre à la place du psychisme. Le terme de psychosomatisme est un néologisme créé par Claude Camilli. Il indique plus que le nom psychosomatisation la dimension dynamique des processus à l'œuvre. C'est une solution trouvée par l'inconscient pour soulager l'esprit et détourner son attention. Nous n'allons pas jusqu'à affirmer que tous les troubles sont psychosomatiques. Cependant, dans tous les cas où la médecine ne décèle rien de lésionnel, nous pouvons sérieusement avancer l'hypothèse qu'un problème psychique est la cause des difficultés fonctionnelles. Notre corps recèle notre histoire. C'est en remontant dans l'histoire du patient, jusqu'aux événements refoulés, que la personne trouve les moyens de se libérer de ses symptômes. En effet, nous ne nous attaquons jamais directement à ceux-ci car ils sont le signal d'une problématique et en aucun cas la cause. Un thérapeute digne de ce nom ne cherchera jamais à faire tomber les mécanismes de défense d'une personne. Les mécanismes de défense psychique d'une personne sont vitaux pour elle. Ils peuvent être inadaptés, mais ils sont provisoirement à respecter. Ce n'est que lorsque la personne aura, en renforçant son moi, trouver un équilibre suffisant que les mécanismes de défense, devenus inutiles, tomberont d'eux-mêmes. En cas de psychosomatisme, il en est de même. Vouloir faire disparaître les symptômes risque d'aggraver la situation. En effet, le symptôme est l'extériorisation d'une problématique. Faire disparaître un signal d'alarme n'a jamais éteint l'incendie. Si nous faisons disparaître le symptôme, trois possibilités. Il va réapparaître quelque temps après. Ou bien il risque de se déplacer et le patient, au lieu de souffrir du dos, souffrira du poignet, de la cheville ou du ventre. Ou bien pire, en disparaissant, les douleurs ne détourneront plus l'attention du patient, elles ne serviront plus de protection. En effet, le symptôme psychique détourne l'attention vers le corps lorsque la difficulté psychique est insupportable. En supprimant ce pare-feu, c'est l'angoisse qu'il est censé camoufler qui risque de ressurgir massivement. La pratique de la somato-psychothérapie demande des savoirs corporels, sociaux, psychologiques et beaucoup de tact et de respect pour aider le patient à explorer ses fonctionnements inconscients, lui permettre d'en prendre conscience à son rythme, l'aider à renforcer son moi jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin de souffrir dans son corps. Il est parfois plus facile de souffrir physiquement que psychiquement. S'ouvrir aux autres sans préjugés. Claude Camilli fait souvent référence à l'attitude phénoménologique en particulier pour montrer de façon concrète que, selon l'endroit où nous nous trouvons, l'objet observé peut révéler des aspects différents et même paraître autre. Appréhender un objet dans sa totalité nécessite de multiplier ses positions d'observateur et en quelque sorte de prendre du recul et d'ouvrir l'éventail. Le massage sensitif n'est pas construit sur une théorie, il se base sur des observations et des constatations. L'attitude phénoménologique est une des bases de la sophrologie. Le massage sensitif et la sophrologie ont beaucoup de points communs. Massage sensitif et sophrologie peuvent tout à fait être associés. Je ferai simplement une limitation pour les techniques de suggestion ou de rêve éveillé dirigé qui ne permettent plus la même interprétation que lorsque les éléments émanent directement du sujet. En principe, les patients viennent en thérapie pour que leur situation de vie change. Cependant, avant d'entamer un travail qui peut demander de nombreuses séances, premièrement, nous proposons une première série de séances, 5 ou 10, à l'issue de laquelle nous faisons le point avant d'éventuellement continuer ou réorienter le travail. Deuxièmement, nous nous assurons toujours que la personne est dans la capacité psychique, sociale, financière à mener à bien ce travail. Troisièmement, et qu'elle veut véritablement changer quelque chose dans sa vie ou ses fonctionnements. En effet, certaines personnes engluées dans une problématique ne voient aucune porte de sortie à leurs difficultés. Ils fonctionnent comme si, arrivant sur un rond-point, toutes les routes desservies étaient des sens interdits. Ils tournent en rond en ressassant les impossibilités sans chercher des solutions innovantes. Déplacer un panneau, passer par les champs ou la voie déserte, sortir à reculons. Il y a ceux insatisfaits de leurs conjoints, de leurs patrons, de leurs collègues, de leurs amis, qui viennent en thérapie pour que leur environnement change. Il y a bien une chose sur laquelle nous ne pouvons rien, c'est de faire changer les autres. Nous ne sommes pas tout-puissants, il est peu probable que nous soyons en capacité de changer les événements, les situations, les autres. Par contre, nous pouvons toujours changer notre façon de les voir. Enfin, il y a ceux qui veulent absolument quitter une situation, veulent partir, changer, fuir. Personne ne peut se fuir. Selon l'adage qui prétend qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va, on ne peut pas partir si l'on n'a pas l'objectif d'aller quelque part. Ces trois situations souvent rencontrées peuvent simplement être traitées par le bon sens et en s'entraînant à voir les choses autrement. Selon le mythe de la caverne de Platon, les hommes seraient enfermés dans une grotte et, tournant le dos à l'entrée, ne verraient que leurs ombres et celles des objets situés derrière eux. Sans s'engager dans une longue thérapie, l'attitude phénoménologique nous permet d'appréhender différemment bon nombre de situations et souvent de régler des problèmes en envisageant, avec du recul, de les considérer sous un autre aspect. Apprenons tous les jours à ouvrir les yeux sur le monde comme si c'était pour la première fois. Une vraie confiance en l'humanité. L'humanisme est un mouvement intellectuel qui se développe en Europe à la Renaissance. Il renoue avec la civilisation gréco-latine et manifeste un vif appétit critique de savoir. Il vise aussi l'épanouissement de l'homme rendu plus humain par la culture. C'est de nos jours une attitude philosophique qui tient l'homme pour la valeur suprême et revendique pour chacun la possibilité de s'épanouir librement et de développer ses facultés. L'humanisme s'est donné pour mission exclusive d'éclairer et de perpétuer la primauté de l'homme sur l'individu. Humanistes, dans toutes nos cellules, nous croyons fondamentalement en l'être humain et faisons confiance en ses capacités de compréhension, de croissance, d'autodétermination. Nous donnons à l'individu une position centrale sans oublier qu'il est en lien avec ses semblables. À la sortie des deux guerres mondiales dans les années 50, ces valeurs ont largement influencé les sociétés occidentales en politique, en art et en psychologie. De nombreux courants ou méthodes thérapeutiques en sont directement issus. L'antipsychiatrie, l'analyse transactionnelle, la sophrologie, le massage sensitif. Nous sommes convaincus que tout être, quel que soit son âge et sa situation, peut apprendre, changer, s'améliorer et mieux vivre en accord avec lui-même et avec les autres. Cela préside à nos pratiques. Cette confiance en l'humain anime les groupes et les thérapies individuelles. Elle permet l'autonomisation des patients en les aidant à actualiser leurs ressources, à assumer leur vie de manière libre et responsable pour aller vers leur individuation. Claude Camilly est un pur produit de l'humanisme par sa confiance lucide en les capacités des personnes à s'améliorer, sa conviction que les individus peuvent changer à tous les âges de la vie, l'importance qu'il octroie au ressenti individuel et personnel, l'étendue des domaines de connaissances où il puise ses exemples, l'absence volontaire de présupposés théoriques, l'affirmation que le thérapeute travaille essentiellement avec ce qu'il est. Chez Jung, la notion de processus d'individuation est, par évidence, également portée par ses valeurs. On ne peut enfermer l'âme dans une théorie. Le but du traitement est d'amener le malade à vouloir guérir pour lui-même. Ce n'est pas à nous à vouloir prescrire au malade les voies selon lesquelles il va devoir guérir. En dernière analyse, non seulement tout psychothérapeute possède sa méthode personnelle, mais en fait sa méthode, c'est lui. L'art requiert l'homme tout entier. L'humain et son développement se situent au centre de nos valeurs.